Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette édition du Journal des Sports du 28 avril 2023. Allez, une édition spéciale bien sûr qui sera consacrée en grande partie à la finale de Coupe de France entre le Toulouse FC et le FC Nantes, les Violets qui iront chercher leur deuxième trophée majeur et leur deuxième Coupe de France depuis 1957 face à Nantes qui est actuellement entraîné par Antoine Comboiré, un ancien Toulousain. Il y aura des retrouvailles au Stade de France. On aura l'occasion d'en parler dans la deuxième partie car avant, nous allons aussi aborder l'autre gros rendez-vous sportif pour Toulouse et c'est le Stade Toulousain qui va se déplacer à Leinster, le club irlandais à l'Aviva, au stade mythique du rugby pour une demi-finale de Champions Cup. Les stadistes vont aller essayer de chercher une finale face à leur bête noire, eux qui galèrent depuis tant de temps à battre le Leinster. On va commencer d'ailleurs par ça. Allez, on va maintenant parler de peut-être la partie la moins importante. Ne fronce pas les sourcils. Tom Ribaud, ne t'inquiète pas, on parle du Stade Toulousain comme on parlera du Toulouse FC tout à l'heure. Là, ce n'est pas une finale, mais une demi-finale qui attend nos stadistes. Une demi-finale de Coupe d'Europe, de Champions Cup plus précisément, face à un adversaire qu'on connaît bien, le Leinster, les Irlandais donc du Leinster. Qu'est-ce qui t'évoque déjà cet adversaire en tant que supporter, fervent supporter du Stade Toulousain ?
Il évoque de très très mauvais souvenirs. Les matchs contre le Leinster, c'est toujours compliqué, long. C'est vraiment une vraie bataille à chaque fois et c'est souvent le Leinster qui gagne à la fin. Donc on espère qu'on va renverser la vapeur, la tendance au week-end.
C'est Tom Ribaud, le supporter toulousain qu'on entend. On entendra du coup son analyse après sur l'équipe de Leinster en journaliste objectif, bien sûr.
Bien sûr.
Avant ça, on va du coup parler de la rencontre, tout simplement ses enjeux, à quoi s'attendre côté Stade Toulousain comme côté Leinster. Et on va commencer tout de suite par rappeler, une petite piqûre de rappel pour nos auditeurs, du parcours des deux équipes. On va commencer par le Leinster. Ça te va, Enzo Châtel ?
Allez, ouais. Alors, le Leinster, ils étaient en poule avec le Racing 92 et le Gloucester. Donc, ça commence avec une victoire du Leinster 42-10 au Racing. Ensuite, une victoire à domicile pour le Leinster 57-0 contre Gloucester. Puis, un déplacement à Gloucester où ils gagnent 49-10. Et encore une victoire face au Racing à domicile 36-10. Ensuite, les huitièmes de finale, ils sont tombés contre Ulster. Ils ont gagné 30-15. Et puis, en quart, plus récemment, ils ont joué contre Leicester Tigers. Et ils ont gagné 55-24. Et ils se retrouvent maintenant face au Stade Toulousain ce week-end.
C'est grandement dominé, ces rencontres par le Leinster.
Ah oui,
Est-ce qu'ils ont l'étiquette de favori pour toi ?
Sur ce match face au Stade, globalement, oui. Sans vouloir énerver Tom, mais...
Non.
Ils partent favoris pour moi, ouais, que des grosses victoires, beaucoup de victoires avec plus de 40 voire 50 points, donc c'est une équipe très 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 solide offensivement et même défensivement, ils prennent pas beaucoup de points à chaque fois.
Surtout quand ça joue à domicile, ça joue à l'Aviva, l'antre du football irlandais, si je ne dis pas de bêtises, Tom, t'as envie de m'arrêter ou...
Alors déjà c'est plutôt l'antre du rugby, mais bon c'est pas grave Hicham.
Ouais. Mais... je vois pas ça aussi grand, c'est vrai, quand on a le stade Ernest Vallon à côté ou le stadium, bon, c'est parce qu'on parle en français, mais c'est vrai que c'est l'un des stades déjà les plus importants du rugby, et c'est là où Leinster est le plus performant, en tout cas, c'est très difficile d'aller déloger Leinster cette saison. La dernière défaite à domicile du coup du Leinster, c'était la saison passée, face aux Vodacom Bulls, les Bulls de Pretoria, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est notamment aussi l'une des équipes, Leinster, la plus performante en Europe. 4 Coupes d'Europe gagnées. C'est le gros du gros. Une finale avant l'heure, peut-être, Tom ?
Alors, sans vouloir la jouer chauvin, le Stade en a 5 de Coupe d'Europe. Ah. Donc, bon, en soi.
C'est pas une compétition, mais c'est, oui, c'est à notifier quand même.
C'est à notifier. Et puis, par rapport à la localisation du match, demi-finale au Leinster. Finale au Leinster en Irlande. J'ai pas envie de jouer le.
Je trouve ça un peu dommage en tout cas pour pas.
J'ai pas envie de jouer le complotiste, mais si c'est cette année, le Leinster doit gagner la Coupe d'Europe pour l'organisation. Donc
ils sont favoris au terme de ces circonstances-là pour toi.
Oui, ils sont favoris, tout le monde pousse derrière eux. Donc ça serait bien pour les Toulousains de faire un coup là-bas et de faire déjouer toute la presse irlandaise.
Eh oui, mais en tout cas, bon, ils étaient avec cette étiquette à domicile la saison dernière lors de leur dernière défaite en Coupe d'Europe. C'était en finale, ça dit donc, domicile, ça compte pas trop. C'était face à La Rochelle. Est-ce que tu te rappelles de cette rencontre? Est-ce qu'elle t'avait marqué pour toi de cette victoire du coup rochelaise?
Alors moi, j'ai pris le match au dernier moment et au meilleur moment, puisque c'est Arthur Retière, Toulousain maintenant d'ailleurs,
maintenant, hein, on le rappelle,
qui devrait être aligné normalement sur le banc. On en parlera après de la composition. Mais il est joué à La Rochelle à l'époque et c'est lui, il glisse à 5 mètres de la ligne d'en but et il marque un essai, limite par accident. Et c'est lui qui donne la Coupe d'Europe à La Rochelle.
À la 79e minute.
79e minute. De jeu. Ah, c'était un match de... C'était fou et puis c'était bien qu'une équipe française batte, surtout le Leinster. Quand même.
Donc on était à ce moment-là pour le club français, pas de rivalité entre Français ou on était juste contre le méchant ogre qu'est le Leinster.
Bon, on était, alors je vais pas te mentir, si c'était Castres qui avait joué contre le Leinster, peut-être que j'aurais été un peu plus partial, mais là La Rochelle en soi, ils nous ont rien fait de mal quoi, jusqu'à présent, donc j'étais quand même supporter de La Rochelle avant d'être contre le Leinster. Cette année, peut-être que ça change un peu, si jamais il y a encore une finale La Rochelle-Leinster. Mais...
Peut-être ça pourrait changer, oui. Eux qui affrontent dans la deuxième demi-finale Exeter.
Oui, c'est ça.
Et donc du coup, le Stade Rochelet, bon, on n'en parlera pas forcément. Hormis pour évoquer cette demi-finale en quelques mots, mais ce sont du coup les récents champions d'Europe. C'était leur dernière défaite à domicile, si on peut parler de domicile, en Coupe d'Europe. Et donc voilà, c'était la dernière débâcle des Irlandais qui semblent ne pas faiblir à domicile ou en tout cas qui n'ont pas perdu depuis plus d'une quinzaine de rencontres. C'est énorme. Pour le Stade Toulousain, par contre, peut-être moins en confiance, mais quand même un parcours qui reste à souligner, Enzo Châtel.
Tout à fait, oui. Donc le Stade Toulousain, ils n'ont pas perdu non plus en Champions Cup cette année. Ils étaient en poule avec le Munster et les Sale Sharks. Donc ils ont commencé par une victoire au Munster 18-13, puis une victoire à domicile face aux Sale Sharks 45-19, puis une victoire à l'extérieur chez les Sale Sharks 27-5, et enfin une victoire 20-16 face au Munster à domicile. Donc ils finissent premiers de leur poule assez logiquement. Et ensuite, pour ce qui est des huitièmes de finale, ils ont joué face aux Bulls et ils ont gagné 33-9, une victoire assez facile. Et puis, ils ont joué en quart face aux Sharks, 54-20. Et donc, ils finissent en demi-finale face aux Leinster.
Une vraie démonstration face aux deux équipes sud-africaines. Tom, toi qui étais au stadium pour la rencontre face aux Pretoria Bulls, tu t'en rappelles, on voyait les Toulousains aller aussi loin déjà en Coupe d'Europe.
Oui, on sentait quand même qu'ils pouvaient, ces huitièmes de finale, on sentait qu'ils pouvaient les passer assez facilement et logiquement. Et puis surtout, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. C'est la première fois qu'on jouait contre une équipe sud-africaine.
Exactement.
Et une équipe sud-africaine qui a quand même battu le Leinster à domicile. Donc, on en était encore plus sur nos gardes. Et finalement, oui, le match s'est quand même passé assez bien pour nous.
Une bonne performance et la meilleure a été face aux Sharks lors du tour suivant, en quart de finale, encore à Toulouse, à domicile, cette fois-ci à Ernest Vallon et non pas au Stadium. Là, les stadistes ont déroulé, Tom.
À partir de l'heure de jeu, on a le festival de Romain Tamac, les essais d'Arthur Retière, encore lui, et Dupont, 4 passes décisives, un doublé de Thomas Ramos. C'était vraiment la fête, Ernest Vallon.
Alors, tu nous as parlé des joueurs qu'on affectionne plus particulièrement, comme Thomas Ramos, Dupont et j'en passe, bien sûr. On va parler du coup de l'effectif de nos rouges et noirs pour cette demi-finale à la Viva. Comment va faire Hugo Mola pour se dépêtrer du piège irlandais? Quel 15 va-t-il aligner, Tom?
Alors, Hugo Mola devrait faire tourner pour ce match parce qu'on a un gros match contre Bordeaux qui nous attend. Non, c'est une blague, évidemment. Personne n'a rebondi, évidemment. En première ligne, c'est Cyril Bayle, Piato Movaca et Dorian Aldeguerri. Piato Movaca qui devrait remplacer Julien Marchand qui devrait être présent sur le banc normalement. Il est blessé depuis 3 semaines. Deuxième ligne du classique australien, Arnold Emeafu. Là aussi, on connaît la force du Leinster dans les pick and go, dans le jeu direct. 2 mètres et 55 kilos, ça devrait nous aider normalement. Troisième ligne aussi très dense avec Thibaut Flamand, Jack Willis et François Cross en numéro 8. Ça fait 2 rencontres qu'il joue à ce poste. François Cross qui est plutôt en troisième ligne. Elle, là, il joue troisième ligne centre. Il aura plus de ballons d'attaque. Charnière du grand classique aussi, Antoine Dupont, Romain Tamac. Aux ailes, on devrait avoir Mathis Lebel et Juan Cruz Malia. Juan Cruz Malia qui a marqué lors des 2 derniers matchs européens. Lui aussi qui marque l'essai de la victoire lors de la dernière finale du Stade Toulousain en Coupe d'Europe contre La Rochelle. C'est son premier match avec le club, donc c'est quand même un petit porte-bonheur, Juan Cruz Malia. Et enfin, en numéro 15, c'est Thomas Ramos qui devrait logiquement débuter, puisque Melvin Jaminet, on le rappelle, s'est blessé contre le Stade Français. Et donc sur le banc, je l'ai dit, Julien Marchand devrait faire son retour au poste de talonneur. Rodrigue Nettier et David Agnew, les deux piliers. Alban Placine et Alexandre Roumat devraient être en troisième ligne, ils sont assez polyvalents, donc on peut les faire entrer en 8 ou en 6 ou en 7. L'Irlandais Joshua Brennan devrait quant à lui être en deuxième ligne. Et sur le banc, 2-3 quarts alignés, les polyvalents Arthur Retière, j'en parlais, et Dimitri Delib qui peut jouer au centre comme à l'aile. Arthur Retière, demi de mêlée, ailier, centre et arrière.
À tes yeux, c'est la meilleure composition que peut aligner Hugo Mola dans cette demi-finale?
Ah oui, complètement. Et puis je me rends compte que j'ai surtout oublié de parler des centres, Pita Aki et Pierre-Louis Barassi. C'est la paire de centres qui marche le mieux, la plus utilisée depuis le début de la saison et surtout en Champions Cup. Et pour l'instant, elle nous sourit, donc ils devraient être alignés sur la pelouse de la Viva Stadium.
Parfait. Melvin Jaminet, tu en as parlé brièvement. Il en a pour combien de temps? Est-ce qu'il y a un pronostic du coup, qui est sorti vis-à-vis de ta blessure? Ou du moins, comment s'est-il blessé? Est-ce que tu peux nous le rappeler?
Il s'est blessé sur la pelouse synthétique du stade Jean Bouin au Stade Français, donc pour le Classico.
La semaine passée, ouais.
La semaine passée, Hugo Mola avait aligné une équipe un peu remaniée en vue de cette demi-finale.
Il s'est soldé par une défaite 19 à 10, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et le Leinster en a pris 60 quand ils ont fait tourner, donc... Peut-être de bon augure pour nous.
Voilà.
Mais oui, Melvin Jaminet, c'était une blessure à la cheville et au tibia, le tibia qui aurait craqué, donc c'est quand même assez mauvais signe.
Et Melvin Jaminet, on lui souhaite un bon rétablissement. Du coup, du côté de la composition du Leinster, est-ce qu'on a déjà des informations, Tom? Ou du moins, on sait dans les grandes lignes qui sera absent pour cette rencontre. Et je crois qu'il y a un absent majeur à souligner, Tom.
Alors, le 15 titulaire, c'est toujours difficile de savoir dans la tête... de sonder dans les cerveaux irlandais, beaucoup d'intox souvent avant les matchs, mais on sait en revanche deux absences majeures. James Lowe, l'ailier de l'équipe nationale d'Irlande et du Leinster, qui est quand même une des pièces majeures de leur attaque, c'est le meilleur marqueur d'essai de son équipe, il ne sera pas là pour ce match, et surtout le maître à jouer de l'Irlande depuis que je regarde le rugby, en fait, ça doit faire 19 ans que j'entends parler de lui, Jonathan Sexton, 37 ans, qui est forfait jusqu'à la fin de la saison. Donc, c'est quand même...
Tu dis ça, le sourire aux lèvres.
Oui. Non, mais j'ai pas envie d'être... J'ai beaucoup de respect pour...
Tu l'aimes bien ?
J'ai beaucoup de respect pour Jonathan Sexton, quand il joue pas contre nous. Mais après, c'est vrai qu'on pourrait bien se passer de ses pénalités, passer à 60 mètres, en coin...
Il est redoutable, Jonathan Sexton.
Redoutable. Après, son remplaçant est tout aussi redoutable. Harry Barnes. C'est un sacré... Ross Barnes, pardon. Il est quand même assez redoutable aussi. Ils arrivent toujours à sortir des joueurs, les Irlandais, de façon énorme à tous les postes. Au centre, on aura Gary Ringrose, qui est un énorme joueur. Donc oui, ils auront sans doute une très bonne équipe. Et puis le meilleur joueur du monde en titre, Josh Van Der Fleer, qui a
volé la vedette l'an passé à Antoine Dupont, si je ne m'abuse.
Et Antoine Dupont, il en a parlé en conférence de presse. Josh Van Der Fleer a parlé d'Antoine Dupont en disant qu'ils allaient être sur son dos toute la partie. Donc on espère que notre Toto National saura un peu déstabiliser les Irlandais.
Ça s'annonce intense, oui. Tom. Je pense qu'on va assister à un bon match de rugby. En tout cas, je pense qu'on va pouvoir voir du beau jeu.
Intense, et d'autant plus que l'arbitre, j'ai envie de parler de l'arbitre.
D'accord, vas-y.
C'est Wayne Barnes. Et d'accord. Souvent dans l'équation, dans la tête des Toulousains, Leinster, il y a souvent le mot Wayne Barnes qui revient. C'est un arbitre qui, on va dire, n'est pas vraiment... apprécié côté toulousain. Il était sorti du stadium en courant une fois. Enfin...
Carrément. Il y a des belles anecdotes sur cet arbitre-là. Ça veut dire qu'il n'est pas forcément apprécié des supporters du stade toulousain, en tout cas.
Apprécié côté irlandais.
Après, c'est côté irlandais, d'accord. Bon, on verra ça lors de cette rencontre. En tout cas, on parle de cet arbitre en temps partiel, clairement, parce qu'on parle de lui. Mais en tout cas, c'est pas, ça va pas être un facteur du match, je le pense pas. Il faudra que nos stadistes se réveillent et n'aient pas besoin d'un arbitrage soit favorable, soit défavorable pour remporter cette demi-finale, Tom.
Ah oui, non, il faudra juste se montrer un peu plus vigilant que d'habitude, comme pendant le tournoi des destinations, notamment sur les zones de ruck. Et voilà, c'est ça sur Wayne Barnes, il faudra faire quand même redoubler de vigilance.
Mais tu t'as parlé du tournoi des destinations et au final, on a l'impression que cette rencontre, vu que les joueurs du Leinster sont quasiment presque composé que des joueurs irlandais de l'équipe nationale et le Stade toulousain a beaucoup, énormément d'internationaux talentueux. C'est un peu un remake de ce match entre l'Irlande et la France lors de ce tournoi à destination, non?
C'est le Leinster, c'est 10 joueurs irlandais. Le Stade toulousain, si c'est pas 10, c'est 10 sélectionnés en gros, mais 6 souvent titulaires. Et oui, on se souvient du score contre l'Irlande. C'était une défaite pour nos Français. Encore à la Viva Stadium, donc c'est pas vraiment le stade qui nous porte bonheur, c'est pas un pays qui nous porte bonheur. Donc non, c'est pas tout, en fait, tous les facteurs sont au rouge pour les Toulousains. Tout indique que ce match, on peut le perdre, donc on espère déjouer les pronostics, d'autant plus qu'on n'y va pas en tant que favori.
On va parler de ces facteurs dans quelques secondes. Endo, tu te rappelles de cette rencontre entre l'Irlande et la France? C'était quand même un match très, très corsé pour nos Français.
Tout à fait, ouais, ça s'était passé en Irlande et il y avait eu 32-19, il me semble. Donc, pas un match facile. Ça avait en plus rompu la série de victoires des Français. Ça durait depuis plus d'un an, je crois.
Ouais, ça c'était 13 matchs sans défaite pour les hommes de Fabien Galthié. Donc, oui, c'est sûr que entre l'Irlande et la France, c'est pas toujours une histoire d'amour, mais c'est toujours de bons matchs. C'était 32-19 le résultat.
C'est ce qui est vrai, c'est exactement, c'est ce que le score que tu avais dit, Enzo. Bien joué. On a un peu l'impression que les Irlandais peuvent être, en tout cas, à l'issue de la saison, la bête noire des clubs français ou du moins de l'hexagone de la France.
Oui, tout à fait. Puis à un an de la Coupe du Monde, je pense que l'organisation, enfin pas un an de la Coupe du Monde, à quelques mois de la Coupe du Monde.
Quelques mois, ça arrive très vite en septembre, c'est ça?
C'est ça, en septembre, ça arrive très vite. Coupe du Monde en France en plus. Je pense que les gens de la Fédération Française de Rugby seraient contents que le Stade Toulousain batte les Irlandais. Parce que quand le Stade Toulousain est en forme, c'est l'équipe de France qui prospère. Donc,
D'accord, ouais, ok. Je pense qu'en tout cas, les Irlandais vont donner du fil à retordre à nos stadistes. Et en tout cas, ça a déjà été fait, on l'a déjà vu, les Irlandais donner de la difficulté à notre stade toulousain, du coup national. Que te rappelles-tu de ces rencontres de Champions Cup, du coup forcément, enfin de Coupe d'Europe, entre ces deux équipes?
Les deux dernières, alors par exemple la dernière demi-finale contre le Leinster, c'était soldé pour une défaite, sur une défaite, avec 40-17 pour le Leinster. Encore une fois, c'était à la Viva Stadium, comme par hasard. En 2019, pareil, défaite en demi-finale, 30-12. 2019, encore une fois, 29-13. Il faut remonter en 2018 pour trouver une victoire de nouveau génois, 28-27. C'était à Ernest Vallon, donc d'un point. Ça se joue à chaque fois à pas grand-chose.
Et donc, il faudra faire l'impossible dans cette demi-finale samedi après-midi, car il me semble que le Stade toulousain n'a jamais remporté un match face au Leinster là-bas, quand le Leinster jouait à domicile.
Au Leinster, non, jamais. On a battu pour la première fois historiquement le Munster en Irlande. Ça ne s'était jamais produit. Et donc, peut-être que cette année, on essaiera de faire l'exploit. Mais ça serait vraiment un exploit, du coup.
Et puis le Leinster à domicile, ils n'ont pas perdu depuis le 10 juin 2022.
Exactement, c'était face au Bulls.
Au Bulls, ouais, c'est ça, ouais.
Et ensuite, en Coupe d'Europe, il fallait remonter à la finale face à La Rochelle.
Tu te rappelles, Enzo? Exactement, la finale face à La Rochelle. C'était le 28 mai 2022 et ils avaient perdu 24-21 face au Rochelet.
Et niveau forme, ce Leinster est-il aussi redoutable qu'il en a l'air? Est-ce qu'il marche bien en championnat?
En championnat, bah oui, ils sont premiers, le Leinster, donc ils sont premiers de leur ligue. Donc c'est toujours une équipe en forme et redoutable. Bon là, Pareil, l'entraîneur du Leinster a fait tourner pour son dernier match. Ils ont pris 60 points en Afrique du Sud. Mais comme a dit Hugo Mola en conférence de presse, en plaisantant sur le ton de la plaisanterie, ils ont envoyé des cadets là-bas. Donc on ne peut pas vraiment juger par rapport à ce dernier match.
Et pour souligner cette défaite face aux Bulls, c'est leur seule défaite de la saison. Ils n'ont pas perdu. Ils ont fait juste un seul match nul face aux Stormers 22-22 en mars dernier. Mais sinon, que des victoires.
En championnat, c'est ça ?
En championnat.
En championnat,
ouais. L'espoir, c'est quand même que les Bulls, on les a balayés assez facilement au stadium.
C'est
pour
vrai.
Une équipe qui a battu le Leinster à domicile.
Mais une équipe, c'était l'an passé après, une équipe qui est sud-africaine et une équipe qui est irlandaise, c'est pas la même chose, Tom.
Ouais, non, et puis c'est vrai qu'ils ont un jeu quand même assez différent. On s'attendait à beaucoup de brutalité de la part des Sud-Africains, et au final, pas vraiment.
C'est plus les stadistes qui sont brutaux, c'est ça ?
Oui, oui, tout à fait. Ils sont, c'est le stadiste, les Toulousains ont beaucoup plus imposé leur rythme, leur puissance. Et sans doute que contre les Irlandais, là, les deux équipes se rendront coup pour coup.
Alors, on a parlé du coup du Leinster, c'est quand même un gros championnat. On va le rappeler, il y a quand même des équipes un peu moins modestes comme les Scarlets, comme Cardiff, comme les Lions, comme les Sharks, bien sûr. Mais aussi des gros morceaux tels que des gros morceaux, on va dire des clubs iconiques que l'on connaît tous, en tout cas que le Stade Toulousain ou que les autres clubs français ont rencontré en Coupe d'Europe, le Munster ou encore Ulster. Il y a des gros morceaux dans ce championnat et c'est pour ça que le Leinster a un aussi gros tempérament, une aussi grosse notoriété et qu'ils sont peut-être favoris pour cette demi-finale. On va parler un peu des réactions en conférence de presse, notamment Hugo Mola l'a dit, ce sont des ogres, ces Irlandais. Comment faire pour se dépatouiller du piège ? Est-ce que c'est vraiment mission impossible à la Viva ce samedi ? Est-ce que c'est vraiment impossible à la Viva ce samedi après-midi ?
Non, c'est pas mission impossible, mais c'est mission très très compliquée en tout cas.
C'est vrai que depuis 2010, on va dire, 2010, première victoire face au Leinster, c'était d'ailleurs la première sur les deux qui existent depuis que les deux équipes se rencontrent. On a l'impression que c'est un peu redondant ces défaites face au Leinster. Comment arrêter ça ?
Je pense pas qu'il y ait de solution miracle, faut juste jouer sur le terrain et aller les chercher, quoi. Même si ça se joue en Irlande, même si l'arbitre il est irlandais, faut tout faire et puis on verra comment ça se déroule samedi, quoi.
Bien sûr, bon, l'arbitre qui n'est pas une excuse, bien sûr, on cesse de le rappeler. Tout va se jouer sur le terrain, comme tu l'as dit, Enzo. Et par contre, le joueur du Stade Toulousain, Dorian Aldegri, a lui été peut-être un peu plus optimiste, ou du moins a dit qu'ils allaient se lancer à fond, ils allaient s'y jeter. Tom, tu peux réagir à ces propos ?
Ah ben, c'est des propos qui font plaisir à entendre quand même. Parce que si le capitaine irlandais Josh Van Der Fleer a dit qu'il serait tout le long de la partie sur le dos d'Antoine Dupont, on espère que Dorian Aldegheri sera sur le dos de Josh Van Der Fleer toute la partie pour laisser Antoine Dupont tranquille et laisser opérer sa magie.
Et comment lui et Mathis Lebel, qui étaient présents également en conférence de presse, paraissaient au vu de cette demi-finale ? Est-ce qu'ils étaient confiants ? Est-ce qu'ils étaient motivés ? Est-ce qu'ils étaient amorphes ?
Ouais, ils étaient surtout... bon, après, ils sortaient de l'entraînement, donc ils étaient un peu amorphes. Mais Mathis Lebel et Dorian Aldegheri se sont montrés quand même assez excités de jouer ce genre de rencontre. C'est pour ce genre de rencontre que les joueurs de rugby professionnels jouent. C'est pour ces matchs de haut niveau et de se montrer au meilleur de leur forme.
Et alors, pour cette demi-finale et aussi pour la finale de Coupe de France, il y aura un dispositif spécial. Place du Capitole. En effet, ce sera sans doute dans l'épicentre de Toulouse où les Toulousains seront le plus nombreux. Pourquoi ? Tout simplement car il y aura un écran géant qui sera mis à disposition des supporters toulousains, fans de l'Ovalie mais aussi du football, car ils vont passer en continu à partir de 16h la demi-finale de Champions Cup entre le Stade Toulousain et le Leinster. Ensuite, il y aura un petit concert, un petit opéra Traviata à 18h. Et ensuite, tout ça découlera, bien sûr, avec la seconde partie, le second rendez-vous de cette journée de samedi, à savoir la finale de Coupe de France entre le TFC et le FC Nantes. On espère que le Capitole sera, après ces deux rencontres, en fête. Allez, parfait, on va faire une petite pause avant de parler du plus gros rendez-vous du week-end avec cette finale de Coupe de France. On va bien sûr passer une musique que l'on connaît tous quand on fait la fête, bien sûr, c'est ramener la coupe à la maison de VG Dream.
Et ça, c'est VG Dream de Gagno. Casser les manches comme Samuel, Samuel M.T.T. 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 Et s'il y a drame, on peut toujours appeler Benjamin Mendy. Et s'il y a drame, on peut toujours appeler Benjamin Mendy. Ramenez la coupe à la maison.
Allez, bien sûr, maintenant, on va parler football, ballon rond et le Toulouse FC qui va aller défier Nantes au Stade de France ce samedi à 21h. Et là, l'enjeu est énorme, certes, un premier trophée majeur depuis plus de 66 ans. C'était en 1957 que le TFC avait remporté la Coupe de France. On en parlera tout à l'heure. Pour déjà vous mettre dans le bain, on va rappeler les parcours des deux équipes successivement. Tout d'abord pour Nantes et pour Toulouse. Enzo Châtel, je te laisse la parole.
Tout à fait, Hicham. Alors, le FC Nantes, il commence en 32e de finale. Il remporte le match 2-0 face à l'AF Virois qui évolue en National 3. Ensuite, en 16e, ils vont faire un match nul face à un club de National 3 aussi, le Estaon, mais ils gagneront au tir au but 4-2. Puis en 8e, ils vont faire aussi un match nul contre le SCO d'Angers, un partout. mais ils gagneront au tir au but aussi 4-2. En quart, ensuite, ils vont réussir à sortir le RC Lens 2-1. Et puis en demi, on s'en rappelle, ils ont sorti l'Olympique Lyonnais 1-0 sur un magnifique but de Ludovic Blas. Et maintenant, ils n'ont plus qu'à jouer la finale face au TFC.
Et les Nantais, on le rappelle, qui sont champions en titre l'an passé. Ils ont remporté la finale face à Nice avec un parcours exceptionnel, bien sûr. Les Nantais qui étaient vraiment énormément au Stade de France. On va en parler aussi. C'est là aussi que tout va se jouer. Le public, le 12e homme. Et là, Nantes a aussi cet avantage-là, en plus d'être champion en titre et de donc défendre ce beau trophée. Pour Toulouse, c'était un peu plus facile, on va dire. Il n'y a pas eu des grosses écuries comme Lens ou Lyon, par exemple. Mais le parcours reste quand même vraiment acceptable et respectable. Tout d'abord, une entrée en lice en 32e de finale face à Lannion, battu 7-1 sur sa pelouse. Le TFC n'a pas fait dans la dentelle. Et ensuite, une première réception face à Ajaccio, une réception stadium qui s'est soldée 2-0 et une domination face aux Corses qui n'ont rien pu faire dans ce 16e de finale. Ensuite, en 8e, c'est un peu le gros morceau. Pour moi, en tout cas, ça a été l'un des chocs les plus importants qui a été largement dominé par Toulouse face au Stade de Reims qui actuellement fait une saison incroyable avec Will Steele et qui, là, s'était un peu trompé, planté face à Toulouse FC sans grandes occasions pour les Rémois. C'est une victoire 3-1 du TFC sur des buts notamment de Zakaria Bouclel et de Faresh Saibi, encore hein, la connexion, on les connaît ces deux-là. Au final, les deux aussi vont commencer à prendre leurs aises, surtout à partir des quarts de finale face à Rodez, un petit derby de l'Occitanie, plutôt sympathique pour nos violets qui ont remporté cette rencontre 6-1, une déculottée totale. Je sais, c'était match pour nos Toulousains qui donc ont grimpé jusqu'en demi-finale grâce à des buts notamment de, on l'a dit, Zakaria Bouclel et Faresh Saibi, mais également Souazo, un doublé d'Alinga et Franco Van Den Boomen. Ils ont tous participé à la fête, ces violets, face à des Ruthénois qui étaient en difficulté et qui maintenant sont largement mieux depuis cette déculottée d'ailleurs en Ligue 2. Et du coup, il y a eu cette demi-finale, ce déplacement à Annecy où on s'attendait à un match compliqué face à des Annéciens qui avaient créé la surprise au stade du Vélodrome à Marseille en battant l'Olympique de Marseille 3-2 après les prolongations avec des tirs au but, une séance haletante. Et finalement, ça s'est soldé par une victoire du TFC à Annecy avec un match là où on peut le dire, on aurait pu avoir peur pour nos Toulousains, surtout quand on a vu à la 91e minute un but de Seydion Moïse qui a été refusé, heureusement pour hors-jeu, oui. Et bon, dans cette rencontre, c'était encore Faresh Saibi et Zakaria Bouclel qui s'illustraient, encore deux buteurs. On espère qu'ils seront également en forme dans cette finale de Coupe de France face à Nantes. Alors pour revenir du coup sur ces deux équipes, il y a eu pas mal de confrontations entre Nantes et Toulouse, d'autant plus qu'on sait qu'en ce moment il y a pas mal, forcément une rivalité, mais en tout cas les deux équipes se cherchent un peu. Il y a eu par exemple un antécédent il y a deux ans, deux saisons avec ce barrage de promotion en Ligue 1.
Ce barrage.
Et on aura l'occasion d'en parler.
Tristement connu.
Tristement connu, exactement. Et il y a des anciens Toulousains aussi, on va en parler. Mais combien du coup de confrontations ont été remportées par le Toulouse FC face à Nantes lors de ces dernières années?
Depuis les 20 dernières années, on est sur 10 matchs nuls entre les deux équipes, 10 victoires pour les Nantais et une victoire de moins pour les Toulousains qui sont à 9 victoires donc.
Et du coup, on pourrait potentiellement voir une 10e victoire et un compteur qui s'égalise à 10 victoires toulousaines, 10 matchs nuls et 10 défaites, c'est ça?
Ce serait beau, ce serait parfait. On l'espère en tout cas. Ça ferait une belle victoire et surtout, on passerait en Europe la saison prochaine. Ce serait beau pour les Toulousains.
Si on peut parler de la forme des deux équipes, pour toi, quelle équipe est la favorite à ce petit chapeau de dominant qui, dans le Stade de France, peut potentiellement prendre l'avantage, en tout cas on les voit gagner
sur cette saison? Je dirais que le TFC est quand même un peu plus en forme, ils font une bonne saison en Ligue 1, ils ont que en Coupe de France c'est que des bonnes victoires, pas de tir au but, c'était assez serein cette saison en Coupe de France, donc je dirais peut-être le TFC, mais en même temps les Nantais, même s'ils n'ont pas fait même s'ils sont 16e de Ligue 1, ils n'ont pas une très bonne saison, même s'ils ont un peu galéré ils sont quand même en finale et puis ils ont remporté la finale la saison dernière, donc ils ont cette expérience là qu'on n'a pas, cette victoire, et ils peuvent faire le doublé, donc ouais, peut-être le FC Nantes quand même.
Le FC Nantes est plutôt boosté en ce moment. Quand on parle de Coupe de France, on les a vus dans des gros rendez-vous face à Lens, face à Lorient, face à Lyon et notamment également face à Lille. Dans des rencontres comme ça, on a l'impression qu'il n'y a que la Coupe de France qui intéresse les Nantais. D'ailleurs, Antoine Combaré avait piqué un petit coup de gueule sur les antennes d'Amazon Prime en disant que leur équipe n'était pas forcément une équipe bonne à jouer, peut-être une équipe de merde avec un entraîneur de merde. C'est lui, c'est ses mots, hein, exactement. C'est vraiment les mots propres d'Antoine Combaré qui, au vu de la situation des Canaries, donc dans cette Ligue 1, on le rappelle, ils sont à égalité de points avec Brest, du coup, de premier relégable. On peut se dire qu'il y a potentiellement un coup à jouer quand une équipe est aussi peu en forme. On va le rappeler, hein, lors des trois derniers matchs depuis la demi-finale, chaque équipe a disputé trois matchs de Ligue 1. Le TFC a un léger avantage de victoire, une face à Montpellier à l'extérieur et une autre encore à l'extérieur face à Lorient. Aussi une défaite de 2-1 au Stadium face du coup à Lyon. L'Olympique de Lyon, on se rappelle de cette victoire de lyonnaise que l'on a débriefé. Pour Nantes, c'est un peu moins bon du coup. Pas de victoire, match nul 2-2 à Monaco. Bon, ils sont allés chercher le point du nul quand même, les Nantais qui étaient à la base menés 2-0. Puis ensuite, une défaite à Auxerre. C'est à ce moment-là que Antoine Comboré a piqué son petit coup de gueule. Et on peut le comprendre car son équipe du coup est à égalité de points également avec Strasbourg. Ces trois équipes qui vont se tirer la bourre dans le bas de tableau. Et également après, là aussi, hein, ça s'est rattrapé. Mais à la base, ça partait sur une défaite face à Troyes, encore à domicile à La Beaujoire. Et il a fallu d'un but d'Evan Guessin à la 95e pour que les Nantais se réveillent. Enzo, on a l'impression que cette équipe, même si elle est dans le bas du bas, vraiment... elle a quand même une petite force mentale d'aller chercher ses matchs nuls et aller toujours chercher un résultat qui leur convient.
Je ne sais pas, parce que ça reste quand même deux nuls et une défaite. Mais oui, c'est sûr qu'ils arrivent à chaque fois à se relever. Et bon, ils sont quand même 16e à je ne sais plus combien de points du relégable.
On l'a dit, c'est vraiment égalité de points, vraiment, avec Brest qui est 17e et avec Strasbourg qui est 15e. Les trois se tirent la bourre vraiment dans le bas de tableau de Ligue 1.
Et oui, donc tu as vu les prochains matchs, ils jouent face à Brest, ils jouent face à Strasbourg, donc je ne sais pas s'ils vont vraiment arriver confiants à cette finale. Ils pensent aussi au maintien, à mon avis. Donc c'est peut-être là l'avantage qu'on a côté Toulouse, parce que les Toulousains, ils sont sûrs d'être maintenus maintenant, quasiment sûrs. Donc ouais, ça va peut-être peser côté Toulousain.
Exactement, ce sont des gros rendez-vous pour Nantes face à ses concurrents directs. On va le rappeler du coup, après la finale face à Toulouse, ça sera un déplacement à l'extérieur face à Brest, concurrent direct, et après face à Strasbourg. Ensuite, il y aura encore un match face à Toulouse, peut-être l'occasion toujours un peu, on va dire, aller de l'avant pour les Nantais qui... On va voir en fonction du résultat, seront soit en bonne forme après une victoire en Coupe de France, soit un peu en déclin. Et ça aussi, ça peut compter dans la saison des Nantais. Après, c'est que des grosses rencontres, ou presque. Il y aura un match face à Angers lors de la dernière journée de Ligue 1, la 38e journée, qui sera peut-être anecdotique, vu qu'Angers est déjà à 14 points relégué, 20e de Ligue 1. Il y a surtout des grosses rencontres, comme on l'a dit, face aux Lillois lors de la 37e journée de Ligue 1, et face à Montpellier, qui, on l'a dit, depuis le retour de Der Zakarian, est plutôt en forme. Est-ce que cette Coupe de France est vraiment une priorité pour Nantes, Enzo?
Et pas sûr, ouais. Il faut jouer le maintien côté Nantais, déjà. Ouais. Comme tu l'as dit, des grosses équipes, le TF et Montpellier, des équipes assez similaires cette saison, 12e et 13e, et qui carburent bien en ce moment. Les Lillois qui jouent l'Europe, et puis Brest et Strasbourg qui jouent comme les Nantais le maintien. Donc ça va se jouer jusqu'au bout, ce maintien, et à mon avis, ça va être... très, très compliqué pour les Nantais, mais ils vont quand même jouer cette finale à fond, à mon avis. C'est quand même leur priorité.
C'est vrai. En tout cas, ça serait drôle de voir une équipe reléguée et jouer l'Europa League. Ça serait
marrant. Oui.
On va le rappeler, on va en parler tout à l'heure. L'équipe qui remporte la Coupe de France aura une place directe pour une Coupe d'Europe, à savoir la Ligue Europa. Et ça serait très intéressant de voir les deux équipes, en tout cas. Nantes qui était cette saison et qui et qui du coup a fini son parcours face à la Juve, plutôt un beau parcours, on peut le rappeler, hein, jusqu'en 16e de finale, ou voir le TFC au Stadium en Coupe de France, ça serait énorme, on en parlera tout à l'heure bien évidemment, pour rappeler les absents de la rencontre. Du côté du FC Nantes, il y a Pedro Chirivella qui joue très peu cette saison, en tout cas en 2023, et qui est tout simplement absent à cause d'une hernie, blessé, et il y a également le jeune Rémi Deschamps, bon, jeune, 26 ans quand même, mais qui a peu de temps de jeu, qui passait longtemps par notamment les réserves de Tours, voilà, un joueur jeune de son talent. Côté toulousain, le groupe est presque au complet, on ajoute une incertitude du côté du milieu de terrain, notre bien sûr Bibiche Brecht de Jagereux, le milieu de terrain qui, on le rappelle, était sorti face à Montpellier suite à un coup à la tête, il y avait un protocole de commotion, il a loupé les deux dernières rencontres face à l'Olympique Lyonnais du coup et Lorient, et on a des incertitudes concernant sa titularisation ou sa présence tout simplement en Coupe de France. Il y a également Barricelli qui est blessé depuis le début de saison, on le sait, suite à une rupture des ligaments croisés. Sinon, tout baigne pour les violets qui vont apparemment être au complet pour cette rencontre et cette finale importantissime de Coupe de France. Enzo, est-ce que tu as peut-être des hommes à surveiller côté nantais ou côté toulousain? Si tu veux, je m'occupe des côtés nantais. Et,
moi, j'en ai un petit côté nantais. Je dirais Ludovic Blas quand même. Ah. On se souvient de son but face à l'OL. Qui a choqué tout le monde. Et oui, il a mené son équipe à la victoire sans encaisser de but lors de ses 5 dernières apparitions en tant que buteur en Coupe de France, et y compris en finale la saison dernière. Donc ouais, Ludovic Blas a surveillé côté nantais pour moi.
C'est vraiment ça, c'est exactement ça. L'homme providentiel du FC Nantes s'appelle Ludovic Blas. Il est d'ailleurs le deuxième meilleur buteur de Nantes avec 7 buts et 4 passes décisives derrière Mostafa Mohamed avec 8 réalisations et 2 buts. Lui aussi, il va falloir faire attention. Il a marqué lors de 2 des 3 dernières rencontres du FC Nantes face à Auxerre et face à Monaco. Il faudra faire attention à l'attaquant égyptien du côté du TFC. On va toujours citer les mêmes à force, j'ai l'impression. On va forcément parler de Chizdalinga, qui est meilleur buteur du TFC actuellement. Sûrement Zakaria Bouclel, qui marche bien en Coupe de France, tout simplement, 4 buts cette saison. 8 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 également. Aussi le petit prince, Farid Chabi, exactement. Farid Chabi
qui marque.
À chaque fois qu'il rentre, qui marque, et ça a été le cas face à Annecy d'ailleurs, c'est lui qui est rentré en fin de match et qui a marqué à la 84e minute le but libérateur, et qui a permis aux Toulousains de filer tout simplement en finale de Coupe de France.
Le joker de Montagnier, à chaque fois il le fait rentrer et ça nous sauve.
Et là aussi, c'est la question, est-ce qu'il sera titulaire ?
Titulaire, je sais pas, peut-être que. On sait que Montagnier, il a l'habitude de le faire rentrer autour de la 60, ouais. 70e.
Puis il y a Ratao qui revient bien aussi.
Et oui, aussi, oui.
Donc il y aura sûrement une place qui va se jouer entre soit Ratao, soit Farid Chabi. On aura l'occasion de voir ça, du coup.
Demain soir.
On va parler, du coup, de l'engouement qu'il y a autour de cette finale de Coupe de France avec les Indians Tolosa qui, eux, ont préparé pas mal de choses, tout simplement. On le rappelle, tout simplement, les Indians Tolosa, pour faire simple, ce sont le groupe d'Ultra. On va dire qu'ils sont le plus présents au stadium, les supporters du Toulousain, les supporters toulousains qui font le plus de bruit dans le virage Brice Tatton et les Indians Tolosa, principal groupe d'Ultra. Du coup, on prépare un dispositif inédit pour la finale de Coupe de France contre Nantes. Mais alors, qu'en est-il ? Tout simplement, il y a un tifo gigantesque qui va être préparé. On le sait, beaucoup de Toulousains sont déplacés en bus via les propositions du Toulouse FC, du club, qui a mis en place avec une organisation au départ un peu catastrophique pour justement avoir les places de Coupe de France en finale. Beaucoup ont galéré, mais au final, ils ont proposé des bus, des trains. C'était vraiment une bonne alternative de leur part pour se déplacer. Là-bas, en Seine-Saint-Denis, on le rappelle, du coup, lieu où se trouve le Stade de France, eh bien, certains Indians vont se déplacer tout simplement dans leur propre bus, le bus des Indians, et ils ont proposé plein de t-shirts violets, là où il y a écrit du coup Forza Viola, pour que tout le Stade de France, en tout cas tous les Toulousains, soient en violet et que ça fasse une magnifique opposition du coup avec les Canaries, les Nantais qui sont venus en nombre la dernière fois, on le rappelle, lors de la finale de Coupe de France l'an passé. Vraiment, le Stade de France était en trois quarts à peu près en jaune, c'était impressionnant. Et bien pour justement ces t-shirts, ils les ont vendus à un certain prix, voilà, pas très cher, 10-15 euros me semble-t-il. Tout ça pour, à ton avis Enzo, ils vont se servir de cet argent-là pour faire un gigantesque tifo. Parmi les 1500 adhérents, ils sont plus de 200 à avoir préparé la finale en amont. Mais au final, ils vont faire un tifo énorme, car plus de 22 000 supporters ont payé car c'est plus de 22 000 supporters violets qui se rendront au Stade de France, la plupart ayant acheté leur petit t-shirt violet. Ça fait pas mal d'argent pour financer ce logo. Au final, on peut s'attendre à quelque chose de très beau au Stade de France, on l'espère en tout cas.
Ça fera un joli stade violet et jaune, ce sera magnifique. Ouais. Et on sait ce qu'il y aura sur ce tifo ou ils ont gardé la surprise?
Alors pour l'instant, ils ont tout simplement gardé la surprise, mais on peut se douter que ça soit déjà en rapport avec les Indians et avec l'identité qu'ils ont autour du Toulouse FC, car en plus, c'est leur année d'anniversaire, on va dire. Ouais. Voilà, c'est 31.
30 années.
30 années, ouais. Exactement. Exactement, et on peut s'attendre à quelque chose de grandiose de la part des Indians Tolosa. Eux qui sont grandement impliqués dans cette finale, ils espèrent que les Toulousains vont remporter cette finale, tout simplement. Et on est allé voir, du coup, les Toulousains dans la rue pour leur demander ce qu'ils en pensaient de cette finale et est-ce qu'ils voyaient les Toulousains favoris. On les écoute à l'instant.
Une belle déculottée à Rodez, 6-1, ça c'était beau. Et puis le match face à Annecy, c'était serré jusqu'au bout. C'était du beau football. J'avais jamais entendu parler de cette finale, mais bon, je pense que le plus important, c'est de se concentrer sur celle qui arrive dans 2-3 jours. Là.
Je trouve que Toulouse a fait une très bonne saison cette année, et un super parcours en Coupe de France, mais je ne suis pas très confiante pour la finale, car ils jouent face à Nantes. C'est une excellente équipe, et en plus, ils ont déjà gagné l'an dernier.
Je ne dirais pas qu'on est favori, parce que oui, comme vous l'avez dit, les Nantais, ils ont gagné la saison dernière déjà. Mais je pense qu'il faut y croire, parce qu'il ne faut pas une très bonne saison. Nos amis nantais, ils sont 15 ou 16e. Donc d'où le TEF, on revient de Ligue 2, là, on fait une belle saison. Je pense qu'on a toutes nos chances d'aller chercher les Nantais.
Ces Toulousains ne sont pas franchement très confiants, non plus sans trop méfiants. Honnêtement, on peut s'attendre à ce que le Toulouse FC aille chercher dans la difficulté cette finale de Coupe de France.
Et ouais, on les sent plutôt mitigés, les supporters du TFC, mais ils ont quand même l'air d'y croire. Donc on va y croire nous aussi. Hein.
On va y croire, on y croit déjà fort. On va passer maintenant à une petite partie histoire. Bien sûr, on va se remémorer la première finale de Coupe de France entre Toulouse et Angers. C'était, oui, il y a 66 ans, les joueurs du TFC obtenaient leur premier trophée de l'histoire du club. C'était pour leur première finale de Coupe de France, remportée à Colombes au stade Yves du Manoir face à Angers. Un score large de 6 buts à 3. 45 000 personnes étaient présentes ce jour-là, aux côtés du coup du président de la République, René Coty. Et là, on a vu du spectacle, car les deux équipes jouaient en D1 à ce moment-là, à ce moment-là, la compétition. Et le match, au plus grand bonheur des spectateurs violets, a été riche en buts. Tout simplement 6 buts à 3. De Rudre a marqué un doublé à la 11e et 24e minute. C'est ensuite Bouchouk qui est venu marquer le but du 3-0. Boshi, Di Loreto et Brahimi sont également buteurs. Du côté des Angevins, c'est Biancheri et Bourigeau qui ont marqué du coup pour Angers. Et là encore, du coup, on a vu un match qui s'est été l'un des plus intéressants, l'un des plus incroyables, l'un des plus fantasques de ces dernières années, en tout cas depuis très longtemps. Car oui, 6 buts à 3, aucune finale ne s'est soldée ainsi. C'est le score le plus large de Coupe de France. C'est ainsi que le Toulouse FC a remporté son premier titre majeur en 1957. C'était la Coupe de France. un premier trophée qui faisait plaisir aux Toulousains, qui à l'époque faisait partie de notre club. On ne sait pas trop, certains disent que ce trophée est illégitime et qu'il appartenait à l'US Toulouse, du coup l'ancien club de Toulouse. D'autres disaient que c'était bien le logo du TFC qui était sous, du coup, sur le maillot des violets. C'est une polémique qui franchement fait peu parler et dont on va taire un peu, car en ce moment, ça ressort bien, vu que le Toulouse FC est en finale de Coupe de France. On va parler maintenant de Philippe Montagnier, car c'est l'un des grands acteurs de la saison du Toulouse FC, tout d'abord l'an passé, et cette année, il fait un travail monstrueux, Enzo.
Arrivé en juin 2021 à Toulouse, l'entraîneur passait par Boulogne, Valenciennes, la Real Sociedad, le Stade Rennais, Nottingham, le RC Lens ou encore le Standard de Liège fait le bonheur du Toulouse FC. Philippe Montagnier, c'est 44 victoires, 15 nuls et 21 défaites sous la houlette du club de la Ville Rose. Le moral du TEF était au plus bas après une désillusion lors du barrage de promotion en Ligue 1 perdu face à Nantes sous Patrice Garande. Le Français est arrivé et a révolutionné l'effectif toulousain. En un peu moins de deux saisons, c'est un titre de champion de Ligue 2 et une finale de Coupe de France pour Montagnier. Lors de sa première saison, l'entraîneur a permis au club de la Ville Rose d'obtenir une promotion en Ligue 1 en terminant premier avec 79 points. Le TFC était alors l'attaque la plus redoutable du championnat avec 82 réalisations. Les Toulousains sont arrivés sur la pointe des pieds en Ligue 1. Ils ébattent les observateurs avec un jeu attractif et porté vers l'avant. Les violets sont actuellement 12e avec 41 points. Le maintien, premier objectif de la saison, est désormais assuré. Si le TFC va retrouver Nantes en finale, Philippe Montagnier doit aussi lutter avec ses démons. Lors de la saison 2013-2014, l'ancien entraîneur de Rennes avait perdu face à Guingamp 2-0, sa première et seule finale de Coupe de France.
Un des entraîneurs les plus emblématiques du Toulouse FC, avec un peu de recul, Enzo.
Ouais, moi aussi je pense à Pascal Duprat, parce que c'est dans ma jeunesse, quand je suivais le TFC, c'est lui qui m'a surtout marqué, mais c'est vrai que Philippe Montagnier, ce qu'il a réussi à créer en un peu moins de deux ans avec le TEF, c'est assez impressionnant, et maintenant il nous a amené en finale de Coupe de France, et peut-être que l'année prochaine, il nous amènera en Europe.
On espère également, la Coupe d'Europe, ça sera très bien, on en parlera juste avant de parler de l'un des chouchous, des supporters du TFC, le meilleur buteur du Toulouse FC cette saison, on parle bien de Thijs Daïnga, le Néerlandais, qui au départ, en début de saison, était un peu timide, là se donne à fond et est l'un des meilleurs éléments de Philippe Montagnier cette saison.
Tout à fait, Hicham, 16 buts, toutes compétitions confondues cette saison, c'est la stat impressionnante du meilleur buteur du TFC, Thijs Daïnga. Le buteur néerlandais de 22 ans est arrivé à Toulouse et il lui a fallu un temps d'adaptation, mais depuis début janvier, il cumule 12 buts, toutes compétitions confondues. Il est d'abord passé par le FC Groningue de 2018 à 2021, où il mettra 5 buts en 24 matchs. La saison où il va vraiment exploser et qui lui a permis d'être repéré par le TFC, c'est son année 2021-2022 en D2 néerlandaise au SBV Excelsior Rotterdam. Il y a inscrit 36 buts, toutes compétitions confondues, en 44 matchs. Le jeune avant-centre de 1m80 est le meilleur buteur néerlandais sur les 5 grands championnats cette saison et il devance ainsi Cody Gakpo, Daniel Malen et Jérémy Frimpong. Il a pour l'instant joué que 5 matchs en sélection nationale avec les moins de 19 et les espoirs et n'a pas encore pu rejoindre les rangs des oranges de Van Dijk. Mais cela ne saurait tarder, avec une saison comme celle-ci, le numéro 27 du TEF devrait très vite gravir les échelons.
Thijs Daïnga, vraiment un attaquant surprenant, on l'attendait pas aussi loin en ce moment. Enzo, là, c'est vraiment l'homme à abattre côté nantais. Hein.
Et oui, quand on a vu, on l'a vu arriver en début de saison, on se disait qui c'est, il vient de D2 néerlandaise, qu'est-ce qu'il peut apporter au TFC, et finalement,
timide, ouais.
Il est arrivé là et il va peut-être marquer demain soir. Donc ouais, c'est vraiment l'homme à suivre côté TFC.
Exactement, il monte en puissance et selon lui, c'est pas forcément encore une grande surprise. En tout cas, lui, il reste confiant pour cette finale de Coupe de France et juge son évolution comme plutôt bonne. On va l'écouter en conférence de presse actuellement.
Of course, because it's such a big game for everybody. But we said after we reach the final that honestly that we wouldn't speak about it and speak as less as possible and focus on the league because we still have to get points to maintain in the league. So yeah, I would lie if I say that we don't think about the final, but we have to think match by match, and first is Lorient, and after that we will focus fully on the cup.
Donc c'est difficile, bien sûr. C'est un gros match pour tellement de monde, pour tout le monde. Mais après Annecy, on s'est bien dit de rester focus, de ne pas parler trop de ça. On pense étape par étape parce qu'il y a cette nécessité de quand même récolter les points. Donc voilà, on reste focus. Ce serait mentir de dire qu'on n'y pense pas. Mais on est sur la prochaine étape qui est Lorient.
Yeah, I think so. Of course, last year I played for promotion. The final was also a big game for me in my career, but I think this is another step forward. And for now, I think the biggest game in my career, because it's, I think, a big achievement for the club as Toulouse to reach the final in France. So, yeah.
Donc oui, moi l'an dernier, j'ai joué une finale pour la promotion, pour la montée en gros. Mais là, c'est une étape au-dessus, donc clairement, ce sera l'un des matchs les plus importants de ma carrière jusqu'à présent.
Non, not specifically. It's just a good feeling to be as a striker to be the top scorer of the club, and for me, it gives more confidence and joy in my game, and I feel that I have more impact in the games. And of course, the defenders are always tough in League One, so I don't really feel a difference from the first half of the season until now. But it's true that the defense is always tough, and I don't feel much difference with the first half.
Donc, non, pas vraiment. C'est forcément un bon feeling en tant qu'attaquant d'être le meilleur buteur. J'ai pris beaucoup en confiance et je trouve que j'ai plus d'impact dans les matchs. Mais les défenseurs sont top en Ligue 1, donc je sens pas trop de différence depuis le début de la saison en tout cas.
On l'a entendu du coup, Chase Dalinga, fier d'être le meilleur buteur du TFC, et on espère qu'il marquera un peu plus l'histoire du club, surtout cette saison, avec une potentielle victoire en finale de Coupe de France. Et vous savez, chers auditeurs, qu'en cas de victoire dans cette finale de Coupe de France, eh bien, le TFC pourrait être du coup européen la saison prochaine, car oui, une victoire en Coupe de France est significative de place en C3, en Ligue Europa. Mais Enzo Châtel, finalement, il y a peut-être un petit souci avec une potentielle victoire du TFC. Est-ce que tu sais pourquoi ?
Et oui, l'équipe nous l'a expliqué ce matin. En gros, vu que les actionnaires du TFC, qui sont le Redbirds, sont aussi actionnaires d'un autre club européen qui est l'AC Milan. Si l'AC Milan se qualifie soit pour la Champions League, soit pour l'Europa League, le club entraîné par Philippe Montagnier n'est pas sûr de pouvoir disputer la Ligue Europa en cas de succès demain.
Exactement, car du coup il y a déjà deux clubs, à savoir que Liverpool aussi, qui est donc qui fait partie aussi du groupe Redbirds, en tout cas qui possède tout simplement des investisseurs là-bas. Il y a un autre club, Liverpool, qui fait également partie du groupe Redbirds, qui dispute aussi la Ligue des Champions. Donc déjà deux clubs dans une compétition européenne, c'est possible. Et un Champions League dans une seule compétition, ça l'est aussi. Alors on se dirait, pourquoi pas le TFC ? Pour l'instant, ce n'est que quelques spéculations. Il n'y a rien d'officiel. Il faudrait que tout simplement, par exemple, Liverpool n'a pas d'actionnaire définitif à Liverpool, du coup, de Redbirds. Il faudrait que le Toulouse FC n'ait plus d'actionnaire de Redbirds au sein du club. C'est une certaine condition. En 2017, par exemple, Red Bull devait s'adapter car ils ont deux clubs, le RB Leipzig et le RB Salzbourg. À savoir que, du coup, RB, c'est Red Bull. Voilà, on va pas vous le faire. C'est pas très compliqué, et les deux équipes là s'étaient adaptées, une jouait au départ l'Europa League et une autre jouait la Champions League. L'UEFA détermine en fait tout simplement en fonction de certains critères si les deux clubs peuvent figurer sur la même compétition, même dans tout simplement compétition européenne. Et bien l'AC Milan, si par exemple il serait en C1, c'est-à-dire en Champions League, pourrait disputer une compétition européenne en même temps que le Toulouse FC, qui serait en Ligue Europa. Pour sur le papier, c'est ça. Finalement, si le Toulouse FC est qualifié en même temps que l'AC Milan, donc qui finirait pas dans les 4 premiers de Serie A et donc qui serait qualifié à la 5e place en Europa League, il pourrait y avoir quelques conditions et quelques débats par rapport au fait que le Toulouse FC et l'AC Milan seraient simplement dans la même compétition.
Oui, en fait, il faudrait que leur actionnaire commun, donc qui est Redbirds, se désengage d'un des deux clubs pour que les deux puissent chacun de leur côté concourir dans la compétition.
Vous l'avez entendu, c'est quand même très compliqué cette histoire. On va le suivre de près, bien sûr. D'ailleurs, oui, dis-moi.
Bon, non, de toute façon, on en saura plus à la fin de la finale, à mon avis. Si le TFC se qualifie, il y aura beaucoup plus d'explications autour de ça.
Exactement, pour l'instant, ça reste optionnel et ça reste quelques conjectures, car le TFC n'est même pas encore vainqueur de la Coupe de France. N'allons pas trop vite, mon cher Enzo Châtel. Et en parlant de Ligue Europa, eh bien, c'est vrai que cette Ligue Europa a fait saliver pas mal de Toulousains. Recevoir déjà des équipes européennes au Stadium à Toulouse, ça n'était pas arrivé depuis 2007, en barrage de Ligue Europa face à Liverpool. On s'en rappelle, c'était un match iconique et il y a eu des beaux moments en Coupe d'Europe pour le TFC. On se rappelle de la victoire face au Napoli, tout simplement. Napoli qui était à l'époque voilà, avec Diego Maradona. C'est des souvenirs qui feront vraiment rêver nos anciens supporters qu'on salue d'ailleurs. On a posé d'ailleurs nos questions aux Toulousains concernant une potentielle Ligue Europa, une potentielle qualification en Coupe d'Europe si le TFC remporte la Coupe de France. On les écoute.
Voilà, la Ligue Europa, c'est des souvenirs, parce que je me souviens à l'époque quand on avait battu le Napoli, c'était pas n'importe quel Napoli, c'était Maradona. Et on est allé chercher au stadium, c'était beau. Donc je pense que la Ligue Europa, c'est les souvenirs, et si on y revient cette année, ça va être beau. Et...
Ah, c'est sûr que ça fait un grand bond. Je pense que l'Europa League, ça va pas être facile, mais ça va être beau si on vient au stadium. On voit des grandes équipes en Europa League. Là, cette année, il y avait même le Barça, Manchester United.
Ah, bah, ce serait super chouette, le Toulouse FC en Coupe d'Europe. On attend ça depuis des années. En Coupe d'Europe, on a vu des super équipes. Cette année, on a vu le Barça, on a vu Manchester United, on a vu la Juve. Je pense que si Toulouse vient chercher des équipes comme ça au stadium, ça va être magnifique à voir ça la saison prochaine, quoi.
Ça serait magnifique. En effet, on se laisse du coup sur les mots de ces supporters toulousains qui seraient ravis du coup de voir le TFC évoluer en Ligue Europa la saison prochaine, si c'est possible. Cela dit, on en saura plus du coup d'ici tout simplement demain, s'il y a victoire du TFC face à Nantes, et puis dans les prochains jours, semaines, mois, concernant du coup les décisions de l'UEFA et les décisions de l'actionnaire Redbird. On se quitte du coup sur cette page, sur ce dernier mot en Europa League. Merci de nous avoir écoutés. C'était la fin de ce journal des sports qui était spécialement consacré aux deux gros rendez-vous de ce week-end. La demi-finale du Stade Toulousain face au Leinster en Champions Cup et la finale de Coupe de France entre le TFC et le FC Nantes. On espère que ce journal des sports vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer tout cela.